Alors, on le sait, la science carbure bien souvent, en tout cas, c'est l'impression qu'on a, aux lois et aux théories. Sans les lois et les théories, on n'explique rien, c'est l'impression qu'on a. Yves Gingras, vous allez nous expliquer aujourd'hui comment les lois et les théories sont bien peu de choses quand on regarde la façon dont on fait la science aujourd'hui. Ça prend beaucoup plus que ça pour percevoir la réalité et expliquer les phénomènes.
Oui, effectivement, depuis, on pourrait dire, quasiment le début du 17e siècle, on pense à la fameuse loi sur la chute des corps de Galilée, qui nous dit que si on laisse tomber un objet, il subit une accélération qui est constante. Et donc ça c'est une loi qu'on dit universelle, qu'on soit n'importe où sur la Terre ou même sur la Lune, si on laisse tomber un objet, son accélération, elle est constante. Et donc on a tendance à dire que la science cherche des lois. Donc effectivement, une loi, c'est une relation régulière entre des phénomènes. On pense à la relation entre la cause et l'effet. On pense aux lois de la gravitation, j'ai mentionné la chute des corps, on parle des lois de la transmission de la lumière, il y a beaucoup de lois. Mais la science ne se limite pas à l'énoncé de lois, bien que, on pourrait dire en gros du 17e, peut-être jusqu'aux années 1920, on a toujours cherché des lois de tous les phénomènes. L'hydrodynamique, quelles sont les lois de base qui expliquent le comportement des fluides? Mais une fois qu'on a des lois, il faut, au-dessus de ça, créer des théories. Donc en gros, qu'est-ce qu'une théorie? C'est un ensemble d'énoncés généraux de lois qui ont relié entre elles. Et parce que ces lois sont reliées entre elles, elles nous permettent de déduire, de calculer souvent, ou de déduire de façon analytique, des énoncés particuliers. Exemple classique, on parle de la théorie de la gravitation de Newton, qui nous permet, en reliant diverses lois entre elles, de trouver qu'un satellite de Jupiter ou d'un satellite de la Terre comme la Lune suit une courbe qui est une ellipse, selon les conditions initiales. Donc là, on a une théorie qui combine des lois.
Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, et ça depuis plusieurs années, c'est de transposer tout ça pour trouver une façon d'expliquer la réalité, mais sans formuler nécessairement des nouvelles théories ou des nouvelles lois.
Oui, parce qu'on peut dire que, par exemple, en électricité, les lois de Maxwell et la théorie électromagnétique de Maxwell est stabilisée dans le dernier tiers du 19e siècle. Au début du 20e siècle, on pense à Einstein, on pense à Planck, on a là les lois de la théorie de la relativité et les lois de la mécanique quantique, qui, mises ensemble, donnent la fameuse théorie quantique. Mais ces lois-là générales, ces théories-là, nous expliquent pas automatiquement tous les phénomènes dans leur complexité. Donc, ce qu'on observe, je dirais, essentiellement dans la deuxième moitié du 20e siècle, c'est la multiplication d'une pratique qui est celle de la modélisation.
Et ça, dans une foule de secteurs. Donc, on peut peut-être commencer par expliquer de quoi on parle quand on parle de modèle.
On peut dire qu'un modèle, c'est un système idéalisé, donc simplifié, reflétant certaines des propriétés des phénomènes réels visés. Comme aujourd'hui, on parle beaucoup de biotechnologie, qu'on parle beaucoup de la santé, on entend souvent le terme de modèle animal. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'un modèle animal? C'est l'idée de reproduire dans une souris, par exemple, l'obésité, en jouant par des modifications génétiques, ou de reproduire le phénomène de Alzheimer. Donc, on a là un modèle, c'est-à-dire une reproduction simplifiée qui semble ressembler au phénomène réel du processus d'Alzheimer chez les humains ou de l'obésité, qu'on va étudier dans le laboratoire sur cet objet simplifié, sachant bien sûr que la souris n'est pas un humain, mais que les processus doivent être comparables. Et là, quand ils seront différents, on aura des modèles un peu plus compliqués. Un autre domaine où il y a des modèles, et c'est peut-être le domaine où on a commencé, c'est la fameuse étude de la drosophile. Hein, cette mouche...
La mouche à fruits, ouais.
À fruits, qui, dès les années 20, a été utilisée pour comprendre, au fond, la théorie de l'évolution, pour comprendre la théorie de la mutation génétique. On a là une mouche qui se reproduit tellement rapidement qu'elle nous permet de suivre sur plusieurs milliers de générations l'évolution d'une espèce et les mutations lorsqu'on les soumet à des radiations. On a donc un modèle animal d'une loi générale, qui est la loi darwinienne de l'évolution et les lois des mutations.
C'est comme une façon de valider ce qu'on sait, de vérifier que dans la réalité, ça se passe bel et bien comme ce que nous disent les lois et les théories.
Oui, et ensuite, on doit complexifier les modèles pour les rendre de plus en plus proches du phénomène réel, à tel point que c'est comme si on fait une carte géographique. C'est un modèle de la Terre simplifié parce que les projections géométriques d'une sphère sur un plan déforment nécessairement vers le pôle, ou si on les transmet sur un cylindre, il y a toutes sortes de projections cartographiques. Mais on sait que si on veut un modèle parfait de la Terre, ce serait la Terre elle-même. Donc le modèle simplifie, enlève des caractéristiques. Et on voit aujourd'hui que ça, surtout après la Deuxième Guerre, pourquoi? Parce que les ordinateurs nous donnent une facilité de calcul beaucoup plus grande. Donc on a aujourd'hui une multiplication de modèles numériques, tant en théorie de l'évolution, pour simuler la coopération entre les animaux et comprendre comment la coopération peut être le fruit de la fameuse lutte pour la survie de Darwin, on fait des modèles mathématiques qu'on laisse évoluer, pour ainsi dire, dans l'ordinateur, puis on comprend que, effectivement, il y a des phénomènes non intuitifs, comme la coopération, qui peuvent être le fruit des lois de l'évolution qui, elles, insistent intuitivement sur la compétition. Donc, comment la compétition peut amener la coopération, c'est ce qu'on peut modéliser. Le modèle peut-être le plus connu, c'est le modèle de la circulation atmosphérique.
Les prévisions météorologiques.
Exactement. On connaît, comme je l'ai dit tantôt, les lois de l'hydrodynamique, les lois d'évaporation de l'eau depuis le milieu du 19e siècle au moins. Mais mettre ensemble ces différentes lois-là pour refléter la circulation des courants d'air, pour reproduire la formation des nuages, c'est là une modélisation qui nous permet de s'approcher de la complexité du réel. Et c'est vrai aussi en sciences sociales, parce qu'on a tendance à penser que la science, c'est la science dure. Mais non, grâce à la théorie des jeux, on fait beaucoup de simulations, donc de modèles de lutte, par exemple, entre des pays. Si on veut savoir si un monde avec deux superpuissances est stable, on peut modéliser dans la théorie des jeux une compétition à deux joueurs qui cherche à avoir le monopole. Et on peut voir que c'est un système stable en écrivant des équations qui ne sont pas, bien sûr, les équations du comportement des gens, mais qui sont un modèle mathématique qui reflète les grandes tendances du comportement. Et un dernier exemple, en mécanique quantique, on connaît les lois de mécanique quantique depuis les années 20, mais calculer aujourd'hui un nombre d'atomes, le fameux problème à N corps, où on a, disons, 10 000 atomes, c'est pas facile. Et on vient de publier ces jours-ci dans Physical Review Letters, ce qu'on appelle un nouveau modèle mathématique, qui est un système d'équations simplifié, mais qui a l'avantage, oui, d'être soluble exactement, et qui nous donne une idée de comment un nombre très grand d'atomes ensemble vont se comporter, et vont donner des transitions de phase, vont donner des comportements qu'on sait qui sont bien ceux qui sont reflétés dans la réalité.
Et donc, est-ce qu'il y a un avenir encore ou de la place pour de nouvelles lois, de nouvelles théories en sciences, ou c'est vraiment les modèles aujourd'hui qui ont et qui ont toujours le haut du pavé?
Bien sûr, au tout début du 20e siècle, on a cru que la science avait tout découvert les lois, donc un bon historien doit faire attention à prévoir l'avenir. Chose certaine qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas interdit de trouver des nouvelles lois, mais il est certain qu'aujourd'hui, aller en science, faire de la science, c'est essentiellement construire des modèles à partir des théories existantes pour expliquer des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes que la théorie le prévoit. Et donc, entre la réalité dans toute sa complexité sur la Terre, si on peut dire, et dans le ciel de la théorie, il y a entre les deux l'intermédiaire sur lequel les scientifiques travaillent quotidiennement, qui sont les modèles qu'on améliore, qu'on complexifie pour eux expliquer la réalité dans toute sa complexité.
Yves Gingras, merci infiniment.
Ça fait plaisir.